Chapitre 9e. Nous laisserons un instant les habitants de la tour Rebelle se livrer au devoir de l'hospitalité pour suivre Mademoiselle de Martigny dans sa nouvelle famille. Ce fut sous la conduite du vieux Richard que la pauvre Marie, le cœur en proie à mille sentiments divers, quitta la maison de ses bienfaiteurs pour aller retrouver un père inconnu dont elle se croyait pour toujours oublié. Quoiqu'il se fût imposé une grande réserve vis-à-vis de la fille de son maître, le serviteur dévoué du comte de Martigny ne sut point, en répondant aux questions de sa jeune compagne, contenir suffisamment son indignation pour que celle-ci ne devinât facilement le malheur de son père et celui dont elle était menacée. Déjà l'idée de voir une femme étrangère à la place de sa mère, dont malgré son extrême jeunesse, elle avait conservé un tendre souvenir, avait voilé son âme d'une profonde tristesse. De quelle juste douleur ne fut-elle pas saisie lorsqu'elle crut comprendre combien cette femme était peu digne du nom qu'elle portait. Ce fut sous l'influence de ces sombres pensées que Mademoiselle de Martigny arriva à l'hôtel du Faubourg Saint-Honoré. Tout y avait été préparé pour lui faire une brillante réception. Sous le péristyle, une haie de valets en livrée, ruisselant d'or et d'argent, attendait la modeste recluse de la tour Rebelle. Dans un premier salon se tenait sa belle-mère, dont les vêtements luxueux contrastaient étrangement avec sa parure presque villageoise. Sextus, la figure encore plus livide que de coutume, retiré dans un coin de l'appartement, observait d'un œil dédaigneux la frêle et délicate créature qu'on voulait lui faire échanger contre les visages de son cercle intime. Heureusement pour Marie, la seule chose qui frappa son esprit dans ce moment fut l'absence de son père. Sans s'arrêter aux compliments cérémonieux dont elle était l'objet, elle demanda à être conduite près de lui. À cette demande soudaine, le rouge de la colère couvrit le visage de Madame de Martigny. Comptant sur l'éblouissement qu'allait causer à une enfant aussi ignorante du monde le déplacement de ses richesses, l'astucieuse créature avait espéré captiver tout d'abord sa naïve belle-fille et, gagnant sa confiance par de fines tendresses, lui inspirer des doutes sur l'affection que lui témoignerait son père. En voyant le peu d'effet produit par ses brillants préparatifs, furieuse de l'indifférence avec laquelle ses avances étaient accueillies, la veuve Bouffard jeta sur la jeune fille un regard de hauteur haineuse et, tirant avec violence le cordon d'une sonnette, elle donna à un domestique l'ordre de conduire cette petite chez M. de Martigny. À partir de ce moment, Marie eut un ennemi dans le monde. Relégué au fond de l'hôtel, où les fêtes se succédaient à côté de son lit de souffrance, M. de Martigny, pâle, à demi mourant, serra sa fille sur son cœur en la couvrant de larmes. Bien qu'un grand nombre d'années se fût écoulé depuis le jour où Marie avait quitté son père, sa mémoire le lui avait toujours représenté jeune, beau, avec la taille noble et élégante. En le retrouvant vieilli, courbé par la douleur, abattu par le chagrin, des sanglots involontaires s'échappèrent de sa poitrine. Il n'en fut pas de même de M. de Martigny. À la vue de l'enfant qu'il avait laissé à peine développer, devenue aujourd'hui une ravissante jeune fille, son cœur éprouva un mouvement de joie tel que depuis longtemps il n'en connaissait plus. Il ne pouvait se lasser de contempler cet être charmant, créature au sourire angélique, au regard d'innocence, qui l'aimerait, le consolerait, adoucirait ses derniers moments. Mais tout à coup, en songeant à l'avenir qu'il avait préparé pour cette fille, que le ciel lui rendait si digne d'amour, le malheureux père, plein d'angoisse, s'accusa tout haut de ses erreurs, de ses faiblesses, exprimant de la manière la plus pathétique ses remords et son désespoir, sans même chercher à atténuer les raisons qui en étaient cause. Si M. de Martigny eût exigé, avec le droit que donne l'autorité paternelle, l'accomplissement du sacrifice auquel était destinée la pauvre Marie, peut-être aurait-il rencontré chez sa fille une résistance énergique. Mais les grands cœurs, ceux qui savent déployer des forces puissantes contre une injuste oppression, cèdent devant l'humble prière, trouvant alors une sorte de volupté dans la sublime abnégation de leur plus cher désir. En voyant son père s'humilier devant elle, en voyant ce vieillard près de la tombe, pleurant sur un passé sans remède, la noble enfant n'eut qu'une pensée, celle de le relever à ses propres yeux, en paraissant approuver toutes les dispositions d'avenir prises à son égard. Ce fut donc sans opposition, mais en demandant tout bas à Dieu d'en mourir, que Mademoiselle de Martigny devint la femme de Sextus. Peu de jours après cet odieux mariage, le ciel, qui pardonne tout au repentir, donnait au comte de Martigné la seule consolation qu'il pouvait attendre en ce monde, celle d'expirer dans les bras de sa fille avant les heures funestes qui allaient sonner pour elle. Il serait trop long d'entrer ici dans les détails de ce qu'eut bientôt à souffrir la jeune comtesse de Martigné, livrée sans appui à une belle-mère jalouse, impérieuse, dont la galanterie était le moindre défaut, unie à un homme vicieux, brutal, prodigue, incapable d'apprécier une seule des vertus de la femme qui aurait dû faire sa gloire, Marie ne compta plus que des jours de souffrance et de larmes. Sa beauté même, cette beauté naïve, s'ignorant elle-même, faite pour trouver grâce devant les cœurs les plus insensibles, n'était pour la jeune femme qu'une source de peine et de déplaisir. En entendant les éloges donnés à sa belle-fille, en voyant les respectueux hommages que lui attirait son maintien modeste, sa réserve pleine de distinction, l'ex-veuve Bouffard comprit qu'elle avait mis auprès d'elle une rivale redoutable, dont elle ne pourrait jamais éclipser ni les charmes, ni la jeunesse. L'impuissance de plaire, qui chez les bonnes natures n'amène qu'une tristesse mélancolique, change au contraire en fureur les sentiments des âmes froides et dépravées. En pensant aux efforts qu'elle, femme sur leur tour, était obligée de faire pour retenir auprès d'elle une cour de flatteurs, tandis que Marie n'avait qu'à se montrer pour recueillir tous les suffrages, la haine de la nouvelle douairière ne connut plus de bornes. Que pouvait opposer à tant de perversité la chaste élève du vieux curé de la Tour aux Belles? Ne sachant rien de la corruption du monde, où le sort la condamnait à vivre, la jeune femme chercha longtemps à deviner la cause qui la faisait haïr par celle qui aurait dû la chérir. En se demandant en quoi elle pouvait être coupable, Marie essaya par de douces prévenances, des soins empressés, à dompter l'aversion qu'elle inspirait à sa belle-mère. Mais il n'est ni soin ni prévenance qui puisse désarmer la jalousie d'une vieille coquette. Enfin, désespérant du succès de ses peines, abandonnée par son mari, au bout d'un mois de mariage, pour une courtisane en vogue, humiliée de s'entendre reprocher jusqu'à sa pauvreté, l'orpheline dédaignée demanda à retourner auprès de ses parents adoptifs. La pauvre enfant n'avait point encore osé, dans la crainte de nuire à la mémoire de son père, leur écrire tous ses malheurs, mais elle connaissait l'âme de ceux qui avaient soigné son enfance, rien ne pouvait la faire changer. Si le départ de la jeune femme s'était borné à sa seule absence, il est hors de doute qu'elle n'aurait rencontré aucun obstacle à son désir. Mais Madame de Martigné savait bien que son passé, connu à Paris, lui aurait, malgré sa richesse, fait fermer les portes de l'ancienne aristocratie, s'il n'avait eu que sa seule personne à y présenter. Le comte de Martigné mort, la présence de sa fille, descendante directe d'une haute lignée, devenait le paratonnerre indispensable pour conserver une position acquise à si grands frais. Un refus formel accueillit donc la demande de Marie. La seule concession qu'elle put obtenir fut de vivre retirée dans son appartement. Le deuil récent de la nouvelle mariée, sa santé délicate, son peu d'usage de la société, parurent à sa belle-mère que cette réclusion enchantait des prétextes suffisants à donner au monde, au moins pendant un certain temps, sans courir le risque de le voir s'éloigner. Ce fut donc dans le coin reculé de l'hôtel qu'avait habité son père que l'innocente créature, dont des êtres impurs exploitaient au profit de leur vice le nom, la noble origine et l'existence sans tache, se confina à l'âge qui touche encore à l'enfance, privée de toutes les affections que le cœur réclame à l'entrée dans la vie. Où étiez-vous aujourd'hui, bonheur, sécurité d'être aimé? Où étiez-vous donc, douce Simone, bon Germain, et vous, Antoine? À ce nom, si souvent présent à sa mémoire, une rougeur subite montait au front de la jeune femme. Hélas, autour d'elle, rien ne répondait à l'appel de son cœur, de tous ceux qui lui avaient été si chers. Pas un seul ne pouvait entendre ses plaintes et ses gémissements, pas même le vieux Richard, qu'on avait chassé après la mort de son maître. Souvent, lorsque l'insomnie cruelle la privait des bienfaits du sommeil, Marie ouvrait une des fenêtres qui donnait sur le jardin. Aspirant la brise rafraîchissante de la nuit, elle retrouvait un peu de calme. Son esprit s'égarant dans le passé lui montrait les habitants de la tour. Ce bruissement du feuillage n'était-il pas celui de ces grands chênes de la forêt? Ce parfum des fleurs, qui montait vers elle comme un suave encens, n'était-il pas celui des roses et des jasmins dont Antoine avait orné son parterre? Puissance du souvenir, vous savez parer de mille riantes couleurs les heures de l'isolement, mais sur votre race fugitive, vous ne laissez pas le bonheur. » Ainsi s'écoula pour Marie plus de la première année de son mariage. À peine savait-elle ce qui se passait dans l'hôtel. Parfois, une musique bruyante, des bruits inaccoutumés lui apprenaient qu'on y donnait une fête. Alors une larme de plus tombait de ses yeux sur la couche mortuaire de son malheureux père. Si elle recevait quelques rares visites de sa belle-mère, c'était pour l'entendre se récrier sur le changement de son visage, sur sa maigreur, sur le besoin de repos que devait avoir sa santé. D'un autre côté, son mari, qui disait-il n'aimait pas les pleurardes et avait sans doute compris la répugnance qu'il lui inspirait, ne s'occupait pas plus d'elle que si elle n'eût point existé. Seulement, redoutant peut-être que lasse de souffrir, sa victime ne laissât échapper quelques plaintes au dehors, il avait donné les ordres les plus sévères afin que les lettres écrites par sa femme lui fussent toutes remises. C'est à cette précaution que Simone avait dû le chagrin d'être si longtemps privée des nouvelles de sa chère fille. 18 mois se passèrent de la sorte. À cette époque, un grand événement apporta à la jeune femme des inquiétudes nouvelles. Sextus, que les plus folles dépenses avaient conduit à contracter des dettes considérables, se trouva, pour sauver sa liberté et un semblant d'honneur, obligé de tout avouer à sa mère et de lui demander de venir à son aide. Que se passa-t-il entre eux alors? Quel genre de reproches s'adressèrent ces deux créatures égoïstes, avilies, complices des tortures d'un vieillard et d'un enfant? C'est ce qu'on ne sut jamais. Des éclats de voix, un bruit sourd et prolongé semblable à un coup frappé, furent tout ce qu'on entendit. Quand Sextus quitta sa mère, une pâleur affreuse recouvrait son visage. Madame de Martigné, en proie à une violente convulsion, gisait à terre sans connaissance. De prompts secours la ranimèrent, mais une dilatation du cœur s'était manifestée, la mort était imminente. Dans cette extrémité, la femme coupable se rappela l'ange qu'elle avait exilé sous son toit. Comme un ange de miséricorde, en effet, Marie, oubliant ses douleurs, ses humiliations, vint offrir à l'auteur de ces mots sa douce pitié, ses consolantes exhortations. La Providence toucha-t-elle de repentir le cœur de la veuve Bouffard? Il faut le supposer, car au moment d'expirer, faisant signe à sa belle-fille de se rapprocher d'elle, ses lèvres à demi glacées murmurèrent tout bas: « Fuyez-le, il vous tuera aussi. » La mère avait bien jugé le fils. Quand Sextus se vit à la tête du brillant héritage qu'il convoitait depuis si longtemps, ses fougueuses passions ne connurent plus de bornes. Le jeu, les orgies se partageaient son existence. Sa maison, où sa compagne légitime vivait en étrangère, fut bientôt le repère des hommes tarés, des femmes équivoques qui pullulaient alors. Sans frein dans ses goûts comme dans ses désirs désordonnés, il enfouissait au jeu et dépensait en plaisir des sommes immenses. Bientôt Marie apprit que Sextus vendait son argenterie, les bijoux de sa mère. Plus tard, ce fut le tour de ses voitures, de ses chevaux, puis de la plus belle partie de son mobilier. Un matin, Madame de Martigné reçut la visite d'un inconnu à l'expression dure, impassible, sur la figure duquel on pouvait lire gravés en sombre caractère les premiers mots des fameux vers de Dante, « Lasciate ogni speranza », etc. Cet homme, que deux autres de même nature accompagnaient, entra sans se faire annoncer, regardant, examinant tout ce qui l'entourait, ouvrant les commodes, les armoires, touchant de ses mains profanes les riches dentelles, les fines batistes, les cachemires. Il n'eut pas jusqu'au bouquet nuptial de la jeune femme, dont les tiges d'argent flexibles avaient une apparence de valeur qui n'excita la convoitise de ce chacal en barbiche. Au moment de partir, l'étrange visiteur s'approcha de Marie et, déposant dans ses mains délicates et tremblantes le cahier crasseux sur lequel il venait de griffonner pendant une heure, « Madame, dit-il en prenant la pose galante d'un héros des barrières, vous êtes gardienne des scellés. » Ce monsieur empressé était un huissier républicain. Pendant cette scène, à laquelle elle ne pouvait rien comprendre, Marie, debout, immobile comme une statue de marbre, n'avait pas trouvé la force de s'éloigner, et depuis longtemps déjà l'huissier et ses acolytes avaient quitté l'hôtel, qu'elle se croyait encore sous l'empire d'un rêve affreux. Des pas rapides, précipités, qui s'avançaient vers la chambre où elle se tenait, la tirèrent de cet état de torpeur. Elle avait reconnu la marche de Sextus. À la vue de son mari, une réaction violente s'opéra dans le système nerveux de la jeune femme. Elle fondit en larmes, émue par l'instinct qui pousse le plus faible à recourir au plus fort. elle se précipitait vers lui en élevant des bras suppliants. Mais le monstre repoussant cette caresse. « Je ne suis point venu ici, madame, » dit-il d'une voix rude, « pour écouter des pleurnicheries de femmelettes ou des sornettes de petites filles, mais bien pour vous apprendre que je suis complètement ruiné, et que si dans 2 jours je n'ai pas 100 000 francs à ma disposition, on nous chassera tous deux honteusement de cet hôtel, nous laissant pour tout bien un matelas que vous vous soucierez peut-être fort peu de partager avec moi, » ajouta le cruel Sextus avec un rire sardonique. Sans prononcer une parole, Madame de Martigné tendit à son mari la saisie qu'elle tenait encore. « Ah, vous êtes au courant, madame, tant mieux. Dites-moi alors si vous êtes d'humeur à vous laisser prendre jusqu'à votre dernière nippe. » En voyant ce sang-froid révoltant avec lequel son mari parlait des humiliations qu'il lui avait préparées, la jeune femme sentit sa fierté native lui revenir au cœur. « Et le moyen de l'empêcher, monsieur ? » demanda-t-elle avec assurance. « Voilà justement ce que je vais vous apprendre. » « Si vous voulez me prêter un instant d'attention, » reprit Sextus. Lorsque votre bonhomme de père, qui tenait à sa tête, se sauva en Angleterre, il avait en possession les diamants de votre mère. « Eh bien, monsieur, » dit Marie, qui ne put contenir un geste d'effroi. « Ces diamants, » reprit Sextus, sans se déconcerter, « avaient été, dans les appréhensions d'un voyage périlleux, laissés par le domestique Richard chez un dépositaire fidèle. À son retour, votre père rentra en leur possession, » et vous les conserva au détriment de la femme à laquelle il devait tout. Aujourd'hui, madame, vous les avez. Il me les faut. Ce ne sera au surplus qu'un acompte payé sur les sommes enlevées à mon héritage pour souvenir à l'entretien du noble mendiant dont on m'a forcé à prendre le nom. » À ces paroles cruelles et menteuses à la fois, Marie se jeta éperdue sur un siège et couvrant sa figure de ses mains. « Oh, mon père !» s'écria-t-elle avec désespoir. Mais cet élan d'un douloureux retour vers le passé ne dura qu'un instant. Se relevant tout à coup et fixant sur Sextus un regard de noble indignation, « Jamais, monsieur, jamais » s'écria-t-elle. « Ces diamants sont du pain pour la fille de la sainte créature à laquelle ils ont appartenu. Plutôt mourir comme est morte votre mère que de les voir profanés sur le front impudique des compagnes de vos plaisirs. » Sextus, qui était loin de s'attendre à l'énergique résistance de cette femme, qu'il avait toujours trouvée silencieuse et soumise devant ses ordres, resta un instant étourdi devant une volonté si fortement exprimée. Mais la violence de son caractère reprenant bientôt le dessus, l'ex-jacobin, déçu dans son espoir, se livra à un effroyable emportement contre celle qui, d'un refus, renversait sa dernière espérance. S'approchant de la jeune comtesse restée calme et impassible devant ses fureurs, d'un coup violent, il la renversa sur le parquet, tandis que de sa bouche, écumant de rage, s'échappait un torrent d'ignobles injures. Cette scène, digne pendant de celle que l'infâme Sextus avait eue avec sa mère, ne devait heureusement pas se terminer d'une façon aussi funeste. Triomphant de l'évanouissement où l'avait plongé la douleur et l'effroi, Marie reprit l'usage de ses sens. Le jour était près de sa fin, personne autour d'elle pour lui tendre la main. Pressentant un malheur, à la vue de leur maître, les femmes qui la servaient avaient pris la fuite. L'isolement de la pauvre enfant était complet. Sa première pensée fut de se mettre à genoux pour remercier Dieu, qui avait épargné à son mari un nouveau crime. Puis, faisant un retour sur elle-même, elle pria le ciel de ne pas lui retirer sa protection. Fortifiée par la prière, Marie se demanda ce qu'elle devait faire. Fuir était le seul moyen d'échapper à une mort certaine. Elle s'y résolut, mais bientôt une crainte funeste s'empara de son esprit. Profitant de son évanouissement, Sextus ne se serait-il pas emparé des diamants? La Providence n'avait pas voulu laisser sans ressources la pauvre délaissée. L'écrin échappé comme par miracle à l'investigation des huissiers avait également échappé aux rapaces recherches de Sextus. Dès que la nuit fut close, Marie songea à mettre son projet à exécution. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le moindre incident pouvait apporter des obstacles insurmontables. Une des portes de l'appartement qu'occupait Madame de Martigné donnait sur un escalier dérobé aboutissant dans une des serres du jardin. Ce jardin, spacieux, planté à l'anglaise comme un parc, longeait les Champs-Élysées auxquels on arrivait par une petite grille. Marie savait qu'imitant le désordre de leur maître, les domestiques de la maison sortaient et rentraient la nuit par cette grille afin d'échapper au contrôle du Suisse de l'hôtel. Elle restait donc ouverte jusqu'au jour où le dernier entrant la fermait à clé. Ce fut par cette issue que Marie se décida à tenter sa fuite. Après un adieu plein de larmes au lieu témoin de la mort de son père, la fille du comte de Martigné, seule, sans appui, quitta le toit inhospitalier où elle n'avait rencontré que douleur et déception. Où allait-elle ainsi, cette noble enfant, née pour vivre sous des lambris dorés, aujourd'hui sans un lieu pour reposer sa tête? Où allait-elle, cette jeune femme dont la beauté appelait le luxe et l'élégance, aujourd'hui vêtue de lugubres habits de deuil? Elle allait, loin des méchants, chercher ce qui vaut mieux que les vaines promesses d'un monde perfide et mensonger, des cœurs simples et fidèles que ni le temps ni l'absence n'avaient pu changer. La fleur des bois de la tour aux belles allait demander à ses vieux chênes l'ombre protectrice qui l'avait fait épanouir. Il serait trop long de dire ici les cruelles péripéties de la nuit pendant laquelle Madame de Martigné erra dans ce vaste Paris qu'elle connaissait à peine et où chaque bruit, chaque ombre la faisait frissonner comme s'il avait été poursuivi. Le ciel ne l'abandonna pas cependant, car au point du jour, sans savoir elle-même comment elle avait pu arriver, elle se trouva à la barrière du Maine. Un charretier qui suivait la route de Rambouillet lui permit de monter dans sa voiture et partagea charitablement avec elle la nourriture grossière qui composait son déjeuner. Dès qu'on eut atteint la forêt, Marie, donnant à son bienfaisant conducteur le peu d'argent qu'elle avait emporté de chez elle, mit pied à terre. Qui mieux qu'elle connaissait les petits sentiers de ce bois chéri que tant de fois, enfant, elle avait parcouru? Ne savait-elle pas le plus court chemin pour arriver à la tour? N'allait-elle pas retrouver les mêmes arbres, les mêmes fleurs bordant la route? Mais hélas, 2 années s'étaient écoulées depuis le départ de la jeune fille. Les sentiers avaient changé d'aspect, les arbres abattus gisaient au bord des chemins, les fleurs privées d'abri s'étaient flétries. Après plusieurs heures d'une marche infructueuse, la fugitive, épuisée, mourante de faim et de fatigue, se laissa tomber au pied d'un chêne. Un lourd sommeil l'y tenait depuis longtemps dans l'oubli de ses maux, lorsqu'un violent coup de tonnerre la rappela à toute l'horreur de sa position. L'orage que nous avons décrit au commencement de ce chapitre venait d'éclater dans toute sa force. Marie crut sa dernière heure arrivée. Remerciant Dieu qui la faisait mourir près des lieux où s'étaient écoulées ses 12 années d'innocence, l'invoquant pour qu'une main amie reconnût sa dépouille mortelle, pour qu'une larme sincère tombât sur son cercueil, elle attendit sans plainte ni murmure ce que le ciel déciderait de son sort. Cependant, quand la pluie eut glacé ses vêtements sur ses membres engourdis, quand un frisson mortel s'empara de tout son être, Marie perdit l'usage de ses sens. Ses yeux se rouvrirent sur le lit de Simone. Marie venait d'achever le récit de ces mots. Quand je pense que je voulais l'empêcher de sortir, répétait Simone, riant, pleurant, tout ensemble en regardant Antoine. Mais celui-ci, le premier moment de joie passé, était tombé dans une sombre rêverie. Les yeux sans cesse fixés sur sa jeune compagne, il admirait cette beauté devenue plus irrésistible par l'expression touchante et mélancolique qui avait imprimé le malheur. Mais en songeant que cette femme pour laquelle il aurait presque donné son âme était maintenant le bien d'un misérable, une fièvre jalouse s'emparait de lui et son esprit ne concevait plus que des idées de vengeance. Le curé, en apprenant l'arrivée de Madame de Martigné, s'empressa de venir voir sa chère élève. Ignorant comment son retour s'était effectué, et la croyant seulement en visite, il complimenta d'abord la famille de la tour sur cette heureuse réunion. Mais en écoutant la triste histoire de la jeune femme, il devint sérieux et pensif. Le bon prêtre avait plus de savoir que ses hôtes. Il prévoyait les malheurs que la fuite de Madame de Martigné pouvait attirer sur elle. Il crut devoir la prémunir contre le danger qu'elle courait. En apprenant que Sextus pouvait la forcer à retourner près de lui, Marie, saisie d'effroi, s'écria qu'elle préférait 1000 fois la mort. Simone, de son côté, jura qu'on passerait sur son corps avant de lui arracher sa fille. Antoine, devenu fort pâle, écoutait son vieux maître en silence. Quand il eut cessé de parler, « Il n'y a donc pas de loi contre les assassins, monsieur le curé ? » demanda-t-il avec calme. « Quand les assassins sont des maris, les choses changent de nom, mon cher enfant, » répondit le curé. « Alors c'est différent, » répliqua simplement Antoine, et il sortit de la chambre en sifflant un air de chasse. Marie et Simone se regardèrent surprises. Le soir, Quand les deux femmes furent couchées, le fils de Germain descendit dans l'arsenal de la tour et, ouvrant une grande armoire où le vieux garde tenait en réserve ses munitions et ses armes de luxe, il en tira deux pistolets richement ornés de ciselures d'argent. Sur le pommeau de la culasse, on voyait incrusté en même métal un chiffre et une couronne royale. S'approchant d'une lumière, Antoine consacra un long temps à l'examen de ses pistolets. Il les regardait encore, touchant les batteries, les faisant jouer, visant un objet, puis un autre, comme s'il eût voulu s'assurer de la justesse du point de mire. Cet examen satisfit sans doute le jeune homme, car un éclair de plaisir illumina un instant sa sombre figure, et posant ses lèvres sur les armes. « Merci, mon parrain, » s'écria-t-il, « je ne puis les consacrer à un meilleur usage. » Au point du jour, Antoine entra dans la chambre de Simone. « Ma mère, » lui dit-il bien bas, afin de ne pas éveiller Madame de Martigné qui dormait près de là, « on me commande pour une chasse au sanglier qui durera plusieurs jours. Adieu. Dites à Marie de ne pas se tourmenter. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'arranger son affaire. » « Ah non, embrassez-moi, » ajouta le jeune homme d'une voix qui décelait une vive émotion, « et de bon cœur, comme lorsque j'étais petit. » Simone, éveillée au milieu d'un profond sommeil, ne comprit d'abord rien au discours de son fils, mais en le voyant rechercher ses caresses, ce que depuis si longtemps il ne faisait plus, elle pressentit un grand malheur. Un instant après, les chiens d'Antoine, laissés au chenil, hurlaient lugubrement en sentant leur maître s'éloigner sans eux. « Dieu puissant !» se dit Simone, en entendant ces cris plaintifs auxquels la superstition villageoise prête d'annoncer la mort. « Il faudrait ne pas avoir été pendant plus de 30 ans la compagne du vieux Germain, pour ignorer qu'un garde forestier ne va point au sanglier sans ses chiens. » Et la pauvre mère enfouit sa tête sous ses couvertures pour que Marie ne l'entendît pas pleurer. 4 jours après les événements que nous venons de raconter, alors que la malheureuse Simone, dévorée d'inquiétude, allait peut-être révéler à Madame de Martigné les craintes que lui faisait concevoir l'absence d'Antoine, une lettre adressée au curé vint jeter un triste jour sur ce mystérieux départ. Elle était signée d'Antoine et contenait ces mots. « Mon cher et honoré maître, je ne sais si vous me pardonnerez la faute que je viens de commettre, mais depuis le jour où vous avez dit qu'il y avait 2 justices pour les assassins, une vilaine idée m'est entrée dans la tête et je viens de la satisfaire. « Monsieur le curé, j'ai tué un homme qui avait tué sa mère et qui voulait tuer sa femme. Croyez-vous que le bon Dieu me maudira pour cela ? Depuis la mort de ma marraine, je m'étais juré, au-dedans de moi, qu'un jour ou l'autre, j'enverrais dormir sous terre un de ceux qui l'avaient fait périr. Ce qui est juré doit être accompli. L'occasion s'est présentée, j'en ai profité. Seulement, au lieu des bourreaux eux-mêmes, je n'ai pu atteindre qu'un de leurs fils. C'est tout de même, n'est-ce pas ? Je vous dirai aussi, et c'est mon excuse, que je n'ai pas pris mon ennemi en traître. Si j'ai eu sa vie, il pouvait avoir la mienne. Je crois donc que le bon droit l'a emporté. C'est dans un infâme tripot où je savais qu'il se rendait chaque soir en compagnie de gens de son espèce que j'ai trouvé Sextus Bouffard. Au moment où j'arrivais, il faisait une partie à deux et allait, faute d'un écu dans sa poche, mettre sa femme comme en jeu. J'ai eu le bonheur d'empêcher ce sacrilège en le provoquant sous un autre prétexte. Mais cette partie-là ne lui convenait pas autant que l'autre, et le lâche a d'abord refusé, me disant avec insolence qu'un noble ne se mesurait pas avec un vilain. Je lui ai appris alors que je le connaissais par le nom de son père, ajoutant que lui et ses pareils avaient d'ailleurs fait couler assez de sang pour combler la distance qui se trouvait entre nous deux. Enfin, excité par son entourage, il s'est décidé, et après avoir essuyé son feu, j'ai tiré à mon tour. Mais là n'est pas ma peine, monsieur le curé, bien au contraire. Ce qui me chagrine, c'est que je ne puis plus revoir la femme que j'ai rendue veuve et que pour d'autres raisons encore, je dois m'en éloigner à jamais. Voyez-vous, mon cher maître, nous avons été accoutumés si longtemps à nous aimer, elle et moi. Vous nous avez fait lire ensemble de si belles choses et tant de fois nous nous sommes surpris à en causer dans le chemin du presbytère à la tour, tout en cueillant des fleurs pour en faire des couronnes, que ces beaux jours ne reviendraient trop souvent en mémoire. Il faut se connaître pour se préserver. Moi, je sens que je pense trop à ma sœur. Je ne voudrais pas lui causer un chagrin de plus en la faisant trop penser à moi. Mais avis que vous direz comme moi, monsieur le curé, que vous m'approuverez de m'en aller être malheureux tout seul, dans un coin bien loin, là où personne ne me verra pleurer. Ce ne sera d'ailleurs pas du nouveau pour moi. pas plus que pour vous de le savoir peut-être, car vous m'avez parfois dit des mots qui savaient bien où trouver leur adresse. Ce qui me soucie fortement le cœur, dans la résolution que je prends, c'est la peine de ma pauvre mère, elle qui s'est donné tant de mal pour moi depuis que je suis au monde. C'était pourtant bien juste qu'elle comptât que je lui fermerais les yeux. Aussi ne l'aurais-je jamais quittée, malgré mon grand ennui de vivre, si je ne laissais auprès d'elle son second enfant, celui qui jamais ne l'affligeait par sa faute. C'est donc à Marie de Martigné que son frère Antoine confie sa vieille et sainte mère. Dites-le-lui, monsieur le curé, je ne peux pas lui faire un plus bel adieu. Je suis à Paris qu'on méditait une nouvelle descente dans la Vendée, et que mon parrain se mettait à la tête de l'entreprise. Ma place est marquée près de lui, et là au moins je mourrai près de ceux que j'aurais voulu servir. Adieu, mon cher et bon maître. Si je n'écris qu'à vous, c'est que j'ai besoin de toutes les forces de mon cœur. En écrivant à d'autres, la faiblesse me gagnera peut-être, et il faudrait encore se donner du mal pour la surmonter. Dites-leur à elles deux de ne pas se chagriner. La mort, s'il vient, me sera plus douce que la vie. Quand on ne doit jamais avoir ce qu'on désire, mieux vaut partir plus tôt que plus tard. Priez Dieu pour moi quand vous serez ensemble. Il n'y a plus que lui qui puisse quelque chose. Pour votre respectueux et affectionné Antoine. La mort, tant souhaitée par Antoine, ne se fit sans doute pas attendre, car depuis sa lettre écrite au curé, personne n'entendit plus parler du jeune garde. Seulement, au bout de quelque temps, on apprit qu'un débarquement de royalistes avait été découvert sur les côtes de Bretagne et que la presque totalité de ceux qui avaient pris part avaient péri en se défendant. Un peu après cette époque, quelques changements s'opérèrent dans l'aspect de la tour Rebelle. Deux ou trois pièces de l'intérieur furent restaurées et meublées convenablement. Des constructions rurales permirent d'y établir une petite ferme où les pauvres trouvèrent toujours un asile. Le curé seul avait accès à la tour et nul ne pouvait dire avoir rencontré les habitants de ces lieux solitaires. Quelquefois seulement, quand la lune éclairait le sommet des ruines, le chasseur attardé apercevait entre les créneaux démantelés une forme blanche et svelte, qu'on aurait pu prendre pour une femme agenouillée. Au récit de ces apparitions, les anciens du pays répondaient que souvent on prenait les morts pour les vivants et que dans tous les cas, il était bien visible que le bon Dieu ne voulait pas que la tour Rebelle perdît son nom. Ainsi s'achève la tour Rebelle de Marie de Lépinay.